20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous, c'est dans l'univers si touchant, sensuel et élégant des mélodies de Gabriel Fauré que nous allons nous plonger ce soir en compagnie du baryton Marc Moyon et de la pianiste Anne Lebozec qui viennent de nous offrir un sublime album célébrant Fauré et ses poètes sous le label Harmonia Mundi. Et puis nous retrouverons Thierry Ilerito du Figaro pour sa première chronique de l'année et cette semaine un portrait de la jeune soprano Marie-Laure Garnier. Mais pour commencer, quelques autres nouvelles du monde musical, de cette rentrée musicale. Une rentrée qui se fera à Lyon jeudi soir pour l'Orchestre National d'Auvergne. C'est le violoniste Enrico Onofri qui dirigera ses musiciens dans un programme aux accents baroques et pré-romantiques. Vivaldi, Sammartini, Carl Philipp Emanuel Bach et le jeune Mendelssohn. Un programme à savourer à l'Auditorium de Lyon, donc jeudi soir, mais aussi vendredi à l'Opéra de Clermont-Ferrand. La Cité musicale de Metz lancera quant à elle sa nouvelle année musicale au son du marimba, le marimba de la brillante virtuose Vasselina Serafimova. Elle jouera des pages de Steve Reich, Astor Piazzolla ou encore Javier Alvarez, une création visuelle et sensorielle de Javier Alvarez, aux côtés du vidéaste Julien Poulain. Une pièce intitulée Time qui se définit comme une vibration entre musique, images graphiques et référence à la nature. C'est à découvrir jeudi à 20h à l'Arsenal. Et les premières notes de piano de l'année 2020 au Théâtre des Champs-Élysées s'annoncent envoûtantes et romantiques. C'est le pianiste Arkady Volodos qui sera en effet demain soir sur la scène de l'avenue Montaigne dans un programme associant des pages de Liszt et de Schumann. Un grand rendez-vous à ne pas manquer avec l'un des pianistes les plus fascinants d'aujourd'hui, dont on connaît et apprécie les affinités avec Liszt et Schumann. Quelques notes de Schumann, un extrait des scènes de la forêt sous les doigts d'Arkady Volodos. Arkady Volodos jouera donc Schumann et Liszt demain soir en récital au Théâtre des Champs-Élysées.
Laure Maison sur Radio Classique.
Fauré et ses poètes, ainsi s'intitule le merveilleux album que viennent de nous offrir le baryton Marc Moyon et la pianiste Anne Lebozec chez Harmonia Mundi. un panorama de l'univers phoréen dans ce qu'il a de plus sensuel et envoûtant à travers cet art de la mélodie que le compositeur français a cultivé tout au long de sa vie créatrice. Et ce programme, Marc Moyon et Anne Le Bozec le donneront également en concert, ce sera, notez-les bien, samedi soir à la Salle Cortot à Paris. Un univers, celui des mélodies de forêt, auquel ils ont tous deux goûté très tôt, comme ils nous le racontent justement ce soir.
C'est une tradition, en fait, dans les classes de chant, de commencer assez tôt avec les mélodies de forêt. Et je dois dire que plus personnellement, comme j'ai commencé, en fait, les cours de chant, j'avais 11 ans. Je pouvais pas faire de l'opéra ou quoi que ce soit. Et donc, mon professeur m'a donné assez rapidement du lead et de la mélodie, et puis aussi beaucoup de musique ancienne, je dois dire. Mais la mélodie a vraiment fait partie de mes tout premiers émois musicaux. Voilà.
Et puis des mélodies, Forêt en a écrit tout au long de sa vie créatrice, et vous dressez un beau panorama justement de l'évolution des mélodies chez Forêt. On a l'impression que c'est un genre qui lui convenait parfaitement, qu'il chérissait en tout cas. C'est un genre, Anne Le Bozec, dans lequel s'exprime tout le génie foréen, selon vous.
Oui, on peut considérer d'abord le génie foréen sous l'angle purement musical, notamment la perfection de la maîtrise de l'harmonie et notamment des virages les plus extraordinaires. Il a quand même complètement déconcerté ses contemporains à partir à peu près de la période où il a composé la bonne chanson, où là il a vraiment semé le doute dans les oreilles des autres en disant mais Forêt serait-il devenu complètement fou. Donc ça c'est le premier élément, l'élément vraiment purement musical. Et après, ce qu'il faut vraiment considérer, c'est la place qu'occupait la poésie, non seulement chez Forêt, mais d'une manière générale chez tous les compositeurs de l'époque, parce que la poésie, c'était aussi les salons, c'était aussi les rencontres, notamment dans le microcosme parisien, mais qui était en fait le macrocosme artistique de l'époque, peut-être encore plus que maintenant, il faut s'imaginer. Donc les poètes étaient en quelque sorte l'univers quotidien de tous les compositeurs. En sachant que finalement la plus belle mise en musique d'une poésie correspond à la plus grande qualité de sa déclamation. Victor Hugo n'avait pas tout à fait apprécié que tellement de compositeurs s'intéressaient à sa musique, il n'en avait pas tellement envie, Baudelaire c'est bon. Mais il y a quand même beaucoup de poètes qui ont apprécié les mises en musique des uns et des autres. Et Forêt excellait là-dedans et il a aussi beaucoup évolué dans ce genre.
La pauvre fleur disait au papillon céleste, ne fuis pas, vois comme nos destins sont différents, je reste, tu t'en vas. Pourtant nous nous aimons, nous vivons sans les hommes et loin d'eux. Et nous nous ressemblons et l'on dit que nous sommes fleurs tous deux. Mais hélas, l'air t'emporte et la terre m'enchaîne, sort cruel. Je voudrais embaumer ton vol de mon haleine dans le ciel. Mais non, tu vas trop loin parmi des fleurs sans nombre, vous fuyez. Et moi, je reste seul à voir tourner mon ombre à mes pieds. Puis tu reviens, puis tu t'en vas encore luire ailleurs. Aussi me trouves-tu toujours à chaque aurore, tout en pleurs. Ah, pour que notre amour coule des jours fidèles, ô mon roi. Prends comme moi racine ou donne-moi des ailes comme à toi.
Le papillon et la fleur sur un poème de Victor Hugo, la toute première mélodie composée par Forêt, son tout premier opus même, écrit par un jeune garçon de 16 ans dans le réfectoire de l'école Niedermayer, parmi les parfums de la cuisine, écrit-il. Cette mélodie, elle ouvre votre album, Marc Moyon et Anne Le Bozec. C'est une douce romance, pleine de charme, pleine de fraîcheur, qui s'apparente presque à une chanson. On est dans le genre de la chanson, avec un côté presque populaire, Marc.
C'est un peu aussi l'orientation qu'on avait pour ce disque. Il y a beaucoup de titres, de mélodies qui commencent par chansons. Et voilà, de réfléchir à cette idée de chanson slash mélodie.
mais c'est vrai que c'est une mélodie qui est d'apparence, comme d'autres mélodies de Fauré, assez simple, assez accessible. On sait que Fauré écrivait pour des amateurs, comme pour des chanteurs expérimentés. On trouve dans certaines de ces mélodies une forme de simplicité. Est-ce qu'elles sont faciles, pour autant, à chanter ?
Alors, il y en a qui sont assez simples. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on les donne aussi dans les premières années d'études de chant, parce que aussi au niveau tout simplement de l'écriture vocale, on peut quand même les chanter assez facilement. Mais il y a quand même énormément de subtilité partout. Et justement, cette science de la déclamation dont parlait Anne, où il faut, à un moment donné, être suffisamment libre soi-même pour s'autoriser à réciter ce texte. Et là, on accède à un autre niveau où la mélodie devient encore plus pleine de charme, en fait. Ça, c'est comme un parfum qui s'exhale tout d'un coup, qu'on n'avait pas vu venir et qui vous emporte. Et donc, il y a en effet une apparente simplicité, mais qui est remplie et qui déborde de plein de subtilités, je trouve.
Et comme le soulignait tout à l'heure Anne Le Bozec, Gabriel Fauré a également surpris par son audace, ses audaces harmoniques, notamment ses contemporains. C'est vrai que son langage a énormément évolué. Et on sent aussi, notamment à travers cet album, qui suit un ordre chronologique, une évolution de sa vocalité. Marc Moyon, on entend des lignes vocales très différentes.
Oui, oui. Bah, aussi bien vocalement qu'au niveau de l'accompagnement. C'était aussi ce qui nous a poussé à choisir cet ordre chronologique, parce que justement, tout au long du disque, on perçoit vraiment des choses très différentes. On comprend à quel point Fauré prend le texte et le digère, le fait sien. Et donc, en fonction des influences poétiques différentes, il écrit vraiment totalement différemment. Et c'était ça aussi, je crois, qui nous intéressait beaucoup, de montrer cette grande diversité. C'est-à-dire, j'avais pas envie d'utiliser la même voix pour tout. Et Anne n'utilise clairement pas le même piano pour tout. Enfin, c'est le même instrument, mais c'est pas du tout le même jeu. Et donc, du coup, c'est très riche. Et se dire que c'est une seule personne qui est derrière tout ça, c'est assez incroyable.
Alors, comment évolue-t-il justement Anne Le Bozec sur le plan pianistique entre cette délicieuse romance, Le Papillon et la Fleur, et ces opus beaucoup plus tardifs que vous abordez également?
Alors, Le Papillon et la Fleur, c'est vraiment la représentation idéale de la romance. C'est-à-dire donc la main gauche fait ce qu'on appelle des pompes.
Oui.
Donc, ça fait pom, 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 pom. Voilà,
oui, mais
ça,
il y a tout l'art de savoir faire les pompes avec une délicatesse et une élégance.
Alors, en fait, c'est très très difficile, les pompes, parce que la main, elle n'est jamais au bon endroit, elle est toujours en déplacement, et en même temps, il faut qu'elle ait cette espèce d'instinct d'aller chatouiller la note idéale au bon moment. Et pendant que la main droite s'envole, tel le papillon, évidemment, et fait des détours, avec des involtures. Et je rapproche finalement l'art de jouer la romance à l'instrument à ce qu'évoquait Marc tout à l'heure, c'est-à-dire c'est en fait un genre très codifié. Faire des pompes et puis un thème à la main droite qui soit libre pour que ce soit ensemble, sans être ensemble, mais quand même ensemble, ça réclame effectivement une forme de libération du matériau, une très très grande élégance, un esprit par rapport à l'écrit. Ça n'a pas l'air de grand-chose, mais c'est grand-chose. Voilà, et de plus en plus, Fauré va inventer justement des formes qui lui sont vraiment propres. Quelque chose de ce qu'on pourrait appeler en allemand Durchkomponiert, qui suit vraiment le texte. Alors les strophes des poèmes sont clairement définies, mais il y a à mon avis par exemple une mélodie qui arrive à un certain moment, qui est Clair de lune, et qui propose complètement quelque chose d'autre, c'est-à-dire qu'elle propose tout simplement une sorte d'ostinato, de choses sempiternellement répétées au piano, qui se trouve être le thème de la mélodie, alors que la voix, quand le poème finit par rentrer, énonce en quelque sorte une deuxième voix, qui est censée regarder justement ce poème se dérouler comme une voix off, comme contemplerait une scène. C'est un effet en fait très cinématographique, ce Clair de lune, quand on regarde ce qu'il a amené du Papillon et la Fleur à cette mélodie-là, par ailleurs, qui a été aussi parmi les rencontres des poèmes de Verlaine. Il y a eu un chemin du point de vue du compositeur qui est absolument extraordinaire et qui va après continuer vers une sorte de raréfaction qu'on trouve dans les toutes dernières mélodies que nous avons sur l'album, qui sont des mélodies où il reste plus grand-chose, en fait. C'est assez extraordinaire.
Le long du quai, les grands femmes balancent. car il faut que les femmes pleurent et que les hommes curieux tentent les horizons qui la
Les berceaux, une mélodie de forêt sur un poème de Sully Prudhomme qui figure au programme de ce merveilleux album dédié aux mélodies de forêt que vous venez de nous offrir. Anne Le Bozec et Marc Moyon, Les berceaux, une mélodie pleine de mélancolie et de tristesse. Et on trouve dans cet album ce mélange de légèreté et de mélancolie aussi qui caractérise, Marc Moyon, l'univers des mélodies de forêt.
Oui, c'est-à-dire que on revient beaucoup à cette idée de simplicité et puis vraiment le côté épuré de la fin. Ce qui est très intéressant, je trouve, c'est de, comme on le disait, chacun séparément, de trouver une forme de liberté ou en tout cas de maîtrise suffisante pour pouvoir énoncer cette simplicité. Et après, il faut trouver le lien entre deux personnes. Et je trouve que dans ces mélodies, on est obligé de faire corps, de parcourir ensemble ces pages de musique. Et c'est aussi quelque chose de très émouvant de voir à quel point on se connaît, de voir un peu le chemin parcouru de notre duo à tous les deux. Et je trouve que ce disque le reflète profondément. Et je suis très ému de ça. Et c'est vrai que, par exemple, dans Les berceaux, d'avoir cet accompagnement qui paraît, en effet, encore une fois, très, très, très simple, le fait de pouvoir donner au chanteur la liberté de dire le texte, de s'adapter vraiment à toutes les quantités syllabiques, à tout l'univers poétique des rimes et des vers, c'est quelque chose d'extrêmement subtil. Et si vous l'avez pas en dessous de vous quand vous chantez, c'est extrêmement inconfortable. Enfin, en tout cas, ça requiert énormément de travail. Et c'est, il y a une espèce d'intuition qu'on doit avoir l'un avec l'autre. Et ce travail-là, il est fantastique. De découverte musicale, humaine, ça rend compte de plein de couches de travail qui est fascinant, je trouve vraiment.
Je voulais juste remercier Marc pour cette écoute justement qu'il a, qui me semble tout à fait merveilleuse, cette écoute de la fusion entre le piano et la voix. Et je crois que pour un pianiste, avoir le texte au cœur de ses mains, c'est le secret en fait de cet art. On finit par se deviner, on finit par se respirer, on finit par se pressentir, voilà. Et là, le poème nous guide tous les deux, bien entendu, et il se trouve que c'est notre langue maternelle, donc, mais elle nous en apprend quand même tous les jours.
Mais c'est vrai qu'on entend autant le texte à travers vos mains qu'à travers la voix de Marc Moyon. Donc ce programme, vous le donnerez en récital le 11 janvier à la salle Cortot, dans le cadre si intime, si propice à cet univers de Cortot, et puis après, d'autres rendez-vous à venir sur scène, Marc Moyon. Alors, vous reviendrez à d'autres répertoires plus anciens avec Psyché de Matthew Locke, que vous donnerez avec l'ensemble Correspondance et Sébastien Dossé le 18 janvier à Caen et le 26 janvier à Versailles. On pourra vous entendre alors au Danemark, hein, pour ceux qui auront la chance d'aller au Danemark, dans l'Orfeo de Monteverdi. Bien d'autres dates encore pour cette année 2020. Et puis, il y a la reprise de Péléas et Mélisande en France. on l'attendait. À Montpellier, ce sera au mois de juin, dans cette magnifique production. Alors, je dis magnifique parce qu'on a pu voir le DVD donné à Malmö avec Benjamin Lazare. Une production qui a beaucoup compté pour vous, Marc.
Énormément, et qui va être renouvelée parce qu'en fait, je change de Mélisande, je change de Golo, on change d'Ignol. Enfin voilà, il y a tout un nouveau paysage sonore et vocal qui va arriver. Et ce dont je me réjouis fort, parce qu'à chaque fois, c'est de nouvelles propositions, de nouvelles personnalités. Et donc, ça va sans doute transformer le spectacle. Mais on va garder, je pense, l'essentiel de l'esprit de cette production qui est vraiment assez incroyable. Ouais.
Voilà, donc ce sera au mois de juin, l'un des moments forts de cette riche année 2020 pour vous, Marc Moyon. Anne Le Bozec, quels seront les autres projets que vous allez mener ces prochains mois, cette année?
Ça va être aussi assez varié, je dois dire. Donc, ce sera également d'ailleurs à la salle Cortot 15 jours après le concert avec Marc. J'espère qu'on ne se fera pas nous-mêmes concurrence. Un concert de musique de chambre le 25 janvier avec les membres de l'Orchestre de Chambre de Paris. Il y a pas mal d'occasions aussi pour moi de faire de la musique de chambre instrumentale. Ça, c'est tout à fait délicieux pour moi d'osciller toujours entre la présence ou l'absence du texte, mais pour moi il y a toujours tellement un sous-texte que voilà. Il y aura plusieurs projets d'enregistrement cette année. Par exemple, un enregistrement qui aura lieu dans quelques jours avec la flûtiste Sandrine Tilly, qui est soliste au Capitole de Toulouse. On enregistrera un disque d'œuvres pour flûte et piano, donc du répertoire russe du XXe siècle, et notamment des choses vraiment des découvertes. Il y aura également un enregistrement au mois de mai, je crois, avec le violoncelliste Alain Meunier et du répertoire français. Et jusqu'à, je tiens quand même à le préciser, notre festival de l'Aubrac qui a lieu au mois d'août et qui est un rendez-vous particulièrement émouvant. Ça s'intitule les Fêtes musicales de l'Aubrac, dans un lieu tellement protégé de tout, tellement il est loin de tout, accès, que la musique peut s'y faire peut-être d'une manière encore plus offerte. En tout cas, on le vit de manière très très forte. Ce sera du 3 au 8 août.
Pour l'avoir vécu, je vous le conseille vivement. J'ai rarement vu un public aussi heureux de rencontrer des musiciens, de partir à la découverte d'œuvres. C'est-à-dire, ils viennent complètement vierges, avec juste l'envie d'écouter, de découvrir. Ça fait tellement du bien, en tant que musicien, de sentir ce désir profond. C'est des moments merveilleux. Voilà. Ça devrait être remboursé par la Sécurité sociale.
Tout comme votre album Forêt, qui nous procure également des plaisirs absolument délicieux. Merci beaucoup Marc Moyon et Anne Le Bozec d'être passés nous voir.
Votre âme est un paysage choisi, que vont charmants masques et bergamas. Jouant du luth et dansant, et quasi triste sous leur déguisement fantasque. Tout en chantant sur le nom de mineur, l'amour vainqueur et la vie. Ils n'ont pas l'air de croire à leur bonheur, et leurs chansons se mêlent au clair de lune. Au calme clair.
Clair de Lune, un nouvel extrait de cet album Forêt et ses poètes, qui réunit donc Marc Moyon et Anne Le Bozec, un album tout juste sorti chez Harmonia Mundi, et un programme à savourer en concert samedi soir à la salle Corto.
Nouvelle génération de Thierry Hillerito avec Le Figaro.
Bonsoir Thierry et très belle année.
Bonsoir Laure, belle année à vous aussi.
Alors on commence avec vous cette année en chantant, comme on vient de le faire d'ailleurs avec Marc Moyon et Anne Le Bozec.
Oui, en chantant ou presque, disons qu'on va la commencer en tout cas en parlant de jeunes chanteurs, car qui dit nouvelle année dit nouveaux talents. Or demain soir se tiendra à Paris, à l'Amphithéâtre Bastille, la finale d'un concours qui n'en est qu'à sa deuxième édition, mais semble bien parti pour faire de plus en plus de bruit dans les années à venir. C'est en tout cas ce qu'on lui souhaite, le concours des voix d'outre-mer. Comme son nom l'indique, cette compétition s'adresse à de jeunes chanteurs lyriques originaires de Réunion, Martinique, Guadeloupe, Guyane ou bien de Saint-Pierre et Miquelon. Pour cette seconde édition, il n'était pas moins de 250 à candidater, de tous âges, de tous milieux, de toute formation musicale, certains venant plutôt des musiques traditionnelles, d'autres ayant déjà un bagage classique. Au terme des sélections, ils sont 14 à avoir été retenus. La plupart d'entre eux ont fait spécialement le déplacement depuis l'autre bout du monde, avec toutes les complications de transport que peuvent poser les grèves en ce moment, pour la grande finale nationale de demain. Mais certains étaient déjà franciliens, ayant quitté les Outre-mer pour la métropole lorsqu'ils étaient enfants. C'est le parcours qu'a suivi la lauréate de l'an dernier, la soprano Marie-Laure Garnier, qui avait ébloui jury et assistance de la finale de la première édition Salle Corto, dans une déchirante version de l'air Pleurer mes yeux du site de Massenet, suivie d'une envoûtante relecture de My Man's Gone Now, extrait de Porgy and Bess de George Gershwin.
Marie-Laure Garnier qui n'en est pas à sa première récompense d'ailleurs dans le milieu lyrique.
En effet, elle fut dès 2013 lors l'une des révélations lyriques de la DAMI, société qui gère les droits des artistes interprètes. Depuis, elle n'a eu de cesse de se perfectionner, de faire mûrir sa voix avec beaucoup de sagesse, au sens noble du terme, de patience et surtout de discipline, tout en continuant de nourrir son imaginaire artistique et musical. Car ceux qui l'ont un peu côtoyé le savent, derrière sa personnalité joviale, rieuse, parfois même un peu mutine, se cache une vraie boulimique de musique profonde, déterminée, une ouverture et une soif de répertoire qui lui vient sans doute de sa trajectoire assez atypique dans le milieu de l'opéra. Elle est née à Kourou, dans une famille non pas de musiciens mais de mélomanes, explique-t-elle, a commencé son immersion dans le monde de la musique avec les percussions traditionnelles guyanaises et la flûte traversière, deux instruments que tout oppose, me direz-vous, mais qui pour elle ont un dénominateur commun inattendu, le chant. En Guyane, ce dernier s'accompagne en effet souvent de percussions et il n'est pas rare de voir les enfants jouer des percussions en chantant à l'école. Quant à la flûte, elle est évidemment ce prolongement mélodique sur le souffle presque naturel de la voix humaine. Car Marie-Laure Garnier l'avoue, le chant fait partie de sa vie dès son plus jeune âge. Sa maman, ses tantes, faisaient déjà partie d'une chorale liturgique quand elle était enfant. C'est d'ailleurs encore à travers un instrument qu'elle se confronte à son tour à l'art choral à l'âge de 10 ans, l'orgue, auquel elle s'initie en même temps que le piano avec une quarantaine d'autres enfants à l'école d'orgue de Guyane. 4 ans plus tard, elle fait le grand saut, quitte sa Guyane natale pour la métropole. Après avoir intégré la classe de flûte du Conservatoire régional de Paris, il est temps pour elle de s'immerger à plein dans l'art vocal en entrant à la maîtrise de Paris. Petit à petit, elle cesse de se cacher derrière l'instrument. Le chant prend toute sa place. À 19 ans, sur les conseils de son professeur, elle tente le concours d'entrée au CNSM. La suite, eh bien, vous la connaissez. Alors, en attendant de briller au Valhalla wagnérien auquel elle aspire et qu'on lui donnerait volontiers sans confession, c'est au Panthéon des dieux romains en Junon, qu'on la retrouvera au printemps au théâtre du Capitole de Toulouse, puis en juin à l'Opéra de Versailles, dans une platée de Rameau mise en scène par Shirley et Dino. Gageons donc que son ascension est loin d'être terminée, tout comme l'aventure du concours Voix d'Outre-mer, courageusement fondée à partir de presque rien par le contre-ténor Fabrice Di Falco, pour permettre à de jeunes chanteurs d'avoir accès aux lyriques sur des territoires où, rappelons-le, il n'y a que très peu d'opportunités, parfois même pas un conservatoire. Celui-ci bénéficie d'ores et déjà du soutien de personnalités prestigieuses comme Karine Dehé, marraine du concours, ou Philippe Jarowski qui fait cette année partie du jury.
Treue küsst, du süßes Herz.
Marie-Laure Garnier, accompagnée ici par la pianiste Célia Onetto Ben Saïd, dans un lied de Schubert, la romance de Rosamund. Merci beaucoup Thierry pour ce portrait de Marie-Laure Garnier. On vous dit à la semaine prochaine. Quant à nous, demain, nous serons en compagnie du pianiste Jean-Philippe Collard qui viendra nous présenter son nouvel album dédié à Granados et son livre, un livre qui nous raconte son parcours. Merci à Lucille Metz qui réalisait ce soir cette émission. Très belle soirée qui se poursuit en musique avec Francis Drezel.